Bonsoir. Je vous remercie pour votre participation à notre conférence téléphonique qui concerne donc l'activité du groupe Alten à la fin du troisième trimestre 2024. Je vais essayer d'être assez concis puisque Assystem démarre sa conférence d'ici 1 heure. Et nous avons essayé de nous coordonner pour vous permettre d'assister aux deux conférences. Vous avez dû recevoir le communiqué de presse que Cécile a diffusé en fin de journée et donc j'imagine avait déjà pris connaissance des chiffres. Donc comme vous avez pu le remarquer, loin de marquer un rebond dans l'activité, le trimestre, ce troisième trimestre a accentué l'érosion de la croissance au-delà de ce qui avait été anticipé par nos clients. Certains qui avaient déjà communiqué sur des reports de projets avant l'été ont dû à quelques jours du démarrage de projets pourtant confirmés courant septembre et en octobre, annuler d'autres démarrages, en particulier dans le monde de l'aéronautique et de l'automobile. À fin septembre 2024, notre chiffre d'affaires s'établit donc à 3,116,7 millions d'euros, en hausse de 2,6% par rapport à l'an passé. En France, l'activité a progressé de 5,8% et de 1,2% hors de France. À données constantes, l'activité ne croît que de 0,6%, de 5,8% en France, et elle recule de 1,8% hors de France. Sur 9 mois, l'activité a bénéficié de 0,6 JO de plus que l'année passée, ce qui a donc eu un impact totalement marginal sur la croissance organique cumulée. Au troisième trimestre, la croissance totale a été de 2%, 5,9% en France et 0,2% hors de France. Et à données constantes, la croissance est de 0,1%, 5,9% en France et moins 2,6% hors de France. Comme vous le savez, le taux d'activité est un peu à la peine cette année. Les reports de projets entraînent mécaniquement une augmentation de l'intercontrat. Notre taux d'activité s'est donc établi à 91% sur le troisième trimestre. Il était de 91,7% l'année dernière. Et à fin septembre, il est de 91,1 contre 91,8 à la fin septembre 2023. La hausse de l'intercontrat reste contenue, malgré des reports de projets à répétition, mais a nécessairement des conséquences sur la dynamique de recrutement. Les effectifs du groupe ont donc légèrement baissé, puisque nous sommes 58 000 collaborateurs, alors que nous étions 58 300 fin juin. Et 57 000 fin décembre 2023. Les effectifs ingénieurs ont diminué de 51 220 collaborateurs. Pardon, les effectifs ingénieurs ont diminué à 51 220. Vous aurez corrigé de vous-même, je pense. Alors que nous étions 51 390 à la fin juin et 50 000 fin décembre 2023. Au global, sur l'année, nos effectifs ingénieurs ont donc progressé de 1 220 personnes, dont 894 proviennent d'acquisitions et 376 de la croissance organique, avec une légère décroissance en France, 50 ingénieurs, et une progression de 326 ingénieurs simplement hors de France. Pour résumer, sur les 51 220 ingénieurs que compte le groupe, 11 750 sont en France, 39 470 à l'international. Alors, si on regarde l'activité maintenant par zone géographique, la conférence analyste du mois de septembre vous a déjà donné les principales tendances. Elles sont en réalité exactement les mêmes que celles que nous avons commentées il y a un mois. La France a réalisé ce trimestre une performance qui reste satisfaisante, mais avec 2 jours ouvrés de plus que l'an passé, soit une croissance qui se serait établie à 2,9% à jours ouvrés constants. La France continue donc à croître, mais comme vous le remarquez, le taux de croissance ralentit. L'activité en France a cru year on year dans l'automobile, l'aéronautique civile, la défense, les life science et l'énergie. Les activités de télécom et BFA sont toujours en recul, mais l'activité a ralenti ce trimestre, à la fois dans l'auto et l'aéro. En zone ibérique, la croissance de l'activité s'est stabilisée à 9,5%, portant la croissance year-on-year à plus de 8%. Tous les secteurs sont en croissance, à l'exception des secteurs finance et life science, en léger recul. En Italie, la croissance continue à ralentir, mais reste satisfaisante, puisqu'elle est de 8% sur le Q3. Tous les secteurs significatifs ont ralenti, mais restent en croissance, à l'exception du secteur banque-finance, qui revient presque à l'équilibre. En Allemagne, le recul de l'activité atteint près de 16% au Q3, portant le recul year-on-year à plus de 11%. Le secteur automobile, à peu près la moitié du chiffre d'affaires, est en recul de 16%. Les constructeurs, c'est deux tiers du chiffre d'affaires allemand, sont toujours en croissance, mais les équipementiers ont accentué leur repli à plus de 45%. Quant à l'activité aéronautique, qui s'était redressée au second trimestre, elle progresse très peu au troisième. Au UK, le recul de l'activité est de 12% environ, principalement dû au secteur aéronautique civil, secteur public, près de la moitié du chiffre d'affaires. Secteur public qui a été impacté par le gel à plusieurs endroits de budget, pour lequel nous attendons un redémarrage courant 2025, mais rien n'est acquis. L'automobile et l'aéronautique ont également ralenti. Au Benelux, une activité stable, en très léger recul au Q3, principalement en raison du life science en Belgique. Quant à l'activité semi-conducteur aux Pays-Bas, elle est repassée en croissance au troisième trimestre. En Scandinavie, le recul de l'activité se stabilise à 10%. Les secteurs des machines-outils en Finlande et du tertiaire en Finlande et Suède sont les plus impactés. En Europe de l'Est, le ralentissement est de 5,4%, moindre au Q3 qu'il ne l'était au premier semestre, puisque le ralentissement n'est que de 4%. La Pologne, qui représente deux tiers du chiffre d'affaires de l'Europe de l'Est, est en croissance, alors qu'en Roumanie, l'activité a accentué son recul à près de 15% au Q3 en raison du secteur auto et tertiaire. En Amérique du Nord, l'activité avait commencé à se redresser au second trimestre, même si au Q3, comme vous le voyez, l'activité est à peu près stable. Ça ne veut pas dire que l'activité ne redémarre pas aux États-Unis. Elle a été principalement impactée chez nous par des reports de projets, tant chez Stellantis que chez Blue Origin. Au Canada, l'activité croît. C'est aux États-Unis où l'activité a fléchi légèrement pour les raisons que je viens de vous expliquer. Et au Canada, elle croît même de 7%, même dans le secteur finance, qui était en recul au premier semestre. Au Mexique, la croissance est toujours forte, puisqu'elle est de 30% sur les comptes auto et banque finance. En zone Asie-Pacifique, l'activité publiée est stable, toujours légèrement pénalisée par Singapour. Or, Singapour, elle serait en hausse de 4%. La Chine, qui représente à peu près un tiers de la zone Asie-Pacifique, croît de 8%, mais a ralenti encore au Q3 en raison de l'auto et des télécoms. L'Inde, qui représente 30% de la zone, croît de 10%, mais le rythme de croissance a ralenti nettement au Q3, puisqu'il est d'à peu près 3%, en raison de l'auto également. Le Japon, 20% de la zone qui était en décroissance a ralenti son rythme de décroissance, si je puis dire, puisqu'il n'est plus que de 2% au Q3. Quant à la Corée, 9% de la zone, elle est également en légère décroissance en raison du secteur auto. Schématiquement, on peut dire que l'Europe du Sud continue à croître de façon satisfaisante. La France est entre l'Europe du Sud et l'Europe du Nord, avec le Benelux. Et l'Europe du Nord et l'Europe de l'Est, y compris le UK, connaissent des difficultés, difficultés qui sont quand même assez significatives, aussi bien en Allemagne, qu'au UK. Si on regarde maintenant notre activité par secteur, l'automobile progresse de 3,5% en données cumulées, mais l'activité elle-même s'est stabilisée au Q3. Comme au premier semestre, la plupart des constructeurs sont toujours en progression, au global de près de 15% year-on-year, mais certains ont quand même ralenti au Q3. C'est chez les équipementiers que le recul de l'activité est plus marqué puisqu'il est de moins 22% year-on-year, mais il atteint presque les moins 30% au Q3, notamment en raison des équipementiers allemands, chez lesquels le nombre de projets a drastiquement baissé. Le ferro continue à croître à un rythme de 6%. L'aerospace progresse de 8%, mais avec une croissance qui a ralenti au Q3 puisqu'elle n'est plus que de 4%. Cela avait été anticipé en raison des annonces d'Airbus en juillet, mais pour être honnête, le freinage a été plus sec que ce qui avait été communiqué au travers des décalages de projets auxquels nous avons dû faire face en septembre et octobre. Les activités de défense-sécurité progressent de 19%. Le taux de croissance s'est encore accéléré au troisième trimestre. L'énergie croît de plus de 3% grâce au nucléaire, qui représente à peu près un tiers du secteur, dont le rythme de croissance est passé à près de 15%. Les activités oil and gas sont stables year on year et ont recommencé à croître légèrement au Q3 grâce à quelques comptes uniquement. Nous verrons s'il s'agit d'une tendance de reprise des investissements dans ce secteur après plusieurs années de décroissance ou s'il s'agit d'investissements ponctuels qui sont le fait de deux, trois clients importants au sein de ce secteur d'activité. Les sciences de la vie sont en léger recul. Le secteur des équipements industriels et d'électronique et semi-conducteurs est à peu près stable, mais il est repassé en croissance au troisième trimestre. Les télécoms sont en décroissance de 5%, mais une décroissance qui a ralenti au Q3. Quant au secteur finance, il est en recul de 8%, mais de 4% simplement au Q3. Là encore, la décroissance ralentit. Enfin, le secteur du retail, services et public sector est également en retrait de plus de 6%, principalement à cause de la baisse importante des budgets dans le secteur public et dans celui des services. Ce troisième trimestre est donc malheureusement à l'image du premier semestre, avec un ralentissement dans l'aéronautique civile et dans l'automobile plus important qu'anticipé en plus. Assez loin donc du rebond annoncé fin 2023 par nos clients pour le second semestre 2024. Concernant le M&A, aucune autre nouvelle acquisition que celle déjà annoncée n'a été finalisée. Le processus d'acquisition de Worldgrid suit normalement son cours et le closing devrait intervenir comme prévu d'ici la fin de l'année. Que dire sur 2024, une année difficile pendant laquelle la croissance s'est effritée tout au long de l'année. Un troisième trimestre plus compliqué que prévu du fait d'une accentuation du ralentissement dans certains comptes du secteur auto, notamment chez quelques constructeurs et équipementiers. Au sein de l'aéronautique civile aussi, le ralentissement du nombre de projets qui ont démarré est bien inférieur à ce qui avait été anticipé et annoncé, alors même que les annonces du mois de juillet nous avaient déjà amenés à faire certains arbitrages et à tenir compte, notamment au travers des recrutements, de la baisse des projets qui avaient été communiqués. Alten a dû faire face à des annulations et des reports de projets pour certains importants, alors même que leur démarrage avait été confirmé chez plusieurs grands clients, et ce pour des raisons de pilotage du cash flow ou d'arbitrage sur des stratégies d'investissement. Nous avons vécu, et nous vivons toujours d'ailleurs, une situation de report de projet confirmé à brève échéance, ce qui est assez inédit. Situation, pour être honnête, que nous avons peu, rarement vécu. Il faut peut-être remonter à 2012, pour 2013, pour retrouver une situation à peu près similaire. Il semble que certains clients ont été eux-mêmes tardivement surpris de certaines de leurs difficultés, ce qui explique des reports additionnels par rapport à ce qui avait été prévu au début du trimestre. Je souligne aussi d'ailleurs que ces reports de projet s'accompagnent également de reports de demandes de paiement, de demandes de report de paiement à début janvier 2025 pour des prestations qui sont échues en 2024. Le contexte économique, particulièrement en Europe, est donc peu favorable pour l'instant. Le rebond aux USA n'est pas franc et l'Asie est en croissance molle. Voilà, donc alors même que nous avions anticipé un scénario worst case, il s'avère que nous devons donc réajuster à nouveau légèrement notre objectif de croissance organique, plutôt de décroissance, devrais-je dire, puisque nous ciblons dorénavant une croissance organique comprise entre -0,7 et -0,4 sur l'ensemble de l'année. La rentabilité opérationnelle, sans surprise, puisqu'on l'avait déjà annoncé, sera donc impactée négativement par un intercontrat légèrement supérieur à son niveau normatif et par un ratio de couverture des SG&A qui est nécessairement inférieur à celui des années passées, malgré une accentuation des mesures de réduction de coûts que nous avons mises en place. En conséquence, pour 2024, nous prévoyons une marge opérationnelle d'activité de l'ordre de 8,7% à contexte économique inchangé. Voilà, je vais laisser la parole aux participants. Et monsieur, si vous pouviez ouvrir la conférence pour permettre aux personnes qui y assistent de poser les questions, comme à l'habitude.
Nous avons maintenant une question de Monsieur Laurent Dor. Monsieur Laurent Dor, c'est à vous.
Oui, merci. Bonsoir Bruno.
Bonjour Laurent.
Je voulais revenir un peu sur les perspectives de ton quatrième trimestre, parce que quand on prend ta guidance annuelle, ça fait quand même une marge d'escalier assez prononcée. Ça fait des baisses 3-4% en organique. Est-ce que c'est entièrement le delta? Il est entièrement lié au secteur auto, ou il y a autre chose? Et enfin, je sais qu'il est un peu tôt pour 2025, mais tu vas rentrer avec une décroissance embarquée. Est-ce que tu penses, je sais que c'est très tôt, mais avoir la capacité sur l'ensemble de 25 à faire un minimum de croissance, ou est-ce qu'il y a une chance non négligeable d'avoir une année à nouveau en décroissance?
En fait, les reports de projet, par rapport à ce qui avait été prévu, projet qui devait d'ailleurs, pour certains d'entre eux, démarrer, pour lesquels on a été informé même pas 10 jours avant que finalement ils s'étaient reportés, alors même que les équipes étaient prêtes à démarrer, c'est quand même une situation particulière, parce qu'on avait évidemment été informé de plans de réduction de coûts et donc de charges sur le Q3 et Q4, ce qui nous avait amené à réviser à la baisse notre objectif de croissance organique. Et habituellement, je dirais que les perspectives que l'on a, on arrive à les matérialiser parce qu'on se trouve pas dans, on s'est pas trouvé, en tout cas, j'en ai pas le souvenir, dans une situation dans laquelle finalement, quasiment le mardi pour le lundi d'après, le client nous dit, bah, finalement, le projet, j'ai pas le budget, je peux pas le lancer, il est annulé. Et ça, ça n'a pas été un cas isolé. Ce sont des situations qu'on a vécues un peu partout, aux États-Unis notamment et en Europe plutôt en Allemagne, en France. Au UK, dans les pays qui sont à plus forte concentration auto-aéro. Donc c'est plutôt dans les secteurs de l'auto et l'aéro où ces situations se sont produites, mais dans les autres secteurs d'activité, on assiste aussi à un effritement de la croissance, ou en tout cas à un effritement de la demande, où là, le niveau d'appel d'offres et de démarrage de projet s'est avéré inférieur à ce que les opérationnels imaginaient sur le terrain. Donc, pour répondre à la question, c'est quand même globalement assez concentré sur l'auto, l'aéro, Mais d'autres secteurs, comme je pense notamment au life science, à la banque finance, au telco, etc., se sont révélés aussi beaucoup plus mous que ce qu'on projetait, alors même que l'ambition avait été extrêmement mesurée.
Bruno, excuse-moi, je t'interromps avant que tu finisses de répondre. Mais quand tu nous donnes les chiffres 9 mois et puis le T3, il y avait quand même des verticaux qui sont moins mauvais au T3 qu'au T2 et au T1, notamment à la banque. Donc on a l'impression que ça, en fait, ça se redurcit sur le T4, même sur des secteurs qui étaient mal orientés dès le début d'année, qui semblaient se diriger vers une stabilisation. En fait, il y a un nouveau trou d'air, c'est ça en fait?
Mais en fait, on a en réalité, on a un T3 qui est moins bon que ce qu'on pensait. Et par voie de conséquence, on embarque non seulement cette décroissance du T3 sur T4, mais du coup, on a dû refaire une passe intégrale sur les portefeuilles projets de T4 et redégrader le T4. Donc, on a un effet cumulatif au Q4 qui provient aussi du T3.
Et c'est sur le niveau d'entrée, là, sur 25 et...
Et donc, sur 25, la réflexion est tout à fait pertinente. C'est-à-dire qu'on va rentrer sur 25 avec une décroissance embarquée que pour l'instant, on n'a pas mesurée parce qu'il faut qu'on attende la fin de l'année pour ça. Mais effectivement, si 2025 est flat, c'est pas forcément l'hypothèse aujourd'hui, hein, parce que quand on discute avec nos clients, l'heure est plutôt à la réduction des coûts et à la maîtrise du cash flow. Donc, il n'y a pas de signaux particulièrement encourageants aujourd'hui qui permettent de penser qu'il y aura un rebond sur 2025. Et alors, les gros clients avec lesquels, enfin, chez qui on a des équipes importantes, quand je parle des clients, je parle des donneurs d'ordre, donc les directions techniques, direction R&D, etc. Eux nous disent n'avoir aucune visibilité, puisque eux-mêmes se sont vus contraints dans leur gestion de projet par des cuts qu'ils n'avaient absolument pas anticipés, et donc qui sont descendus des directions financières rapidement et sans réelle anticipation. Donc on s'est retrouvé dans certains cas avec des équipes de, je sais pas, 50 personnes, il y en a une équipe de 100 personnes en Allemagne où ça devait démarrer, ça n'a pas démarré. Donc la conséquence de ça, c'est que non seulement on a une perte de chiffre d'affaires, et évidemment, on a une augmentation ponctuelle de l'intercontrat. Donc 2025, ce qui est sûr, c'est que si l'activité se stabilise en séquentiel, il y aura une décroissance organique. Mais je ne sais pas la mesurer aujourd'hui.
Oui, pour être stable, en fait, il faut que tu aies une amélioration sur à partir du T3,
Complètement.
quoi.
Exactement. Qu'il soit
Oui, c'est.
le symétrique de la détérioration de 24.
Oui. C'est bien trop tôt pour, j'imagine, pour avoir une vision sur septembre 25.
Bon, et apparemment, enfin, je ne veux pas parler pour les autres, mais les informations que j'ai quand même, c'est que c'est assez général dans la profession. Et pas que dans notre profession d'ailleurs.
Ok, peut-être un tout dernier point. Est-ce que tu as eu le temps d'essayer de calculer ton surplus d'impôt?
Alors, à l'échelon de la France, il sera compris entre 3 et 5 millions d'euros sur 2020. 4.
Ok, parfait. Merci beaucoup, Bruno.
Bon, et donc normalement, moitié moindre en 2025. Attends, il faut attendre de voir ce qui passe à l'Assemblée, hein, parce que
Oui, c'est pas loin d'être terminé, oui.
c'est loin d'être fini, ouais.
Merci, bonne soirée.
Merci.
Nous avons maintenant une question de Monsieur Aditya Boudavarapu. Monsieur, c'est à vous.
Nous vous entendons. Formidable. Pardon, j'ai un problème avec le son. Aditya, pourriez-vous parler un petit peu plus fort parce qu'on vous entend mal, vous êtes loin, on dirait. Très bien, je vais faire de mon mieux. J'espère que vous m'entendez. Merci déjà de prendre ma question, Bruno. J'apprécie vraiment cela. Tout d'abord, pour clarifier un point, au cas où j'ai raté ça. Est-ce que vous avez dit que l'automobile, on était à moins, les équipementiers, qu'on était à moins 40%? Non, ce que j'ai dit, c'est que dans le secteur automobile, year on year, on avait une croissance de 8%, ce qui est pas mal. Il y a une grosse différence entre les OEM et les équipementiers parce que les OEM sont encore à 14% de croissance, tandis que les équipementiers, on est à 28% de baisse, donc pas loin de 30% en effet. Uniquement chez les équipementiers représentent un tiers de l'activité auto pour Alten. Donc ce que j'ai dit, c'est que year on year, on a 28% de décroissance sur les équipementiers, tandis que les OEM, on est en croissance. J'ai également souligné le fait que, globalement, ce qu'on voit, c'est que même chez certains OEM qui s'en sortaient bien jusqu'ici, on voit une décélération de la croissance chez certains OEM en Allemagne et en France. Et aux États-Unis. Donc, on n'est pas si inquiet, mais c'est vrai que la situation, elle est, je dirais, moins radieuse que la première partie de l'année. Et on est très inquiet pour les équipementiers, parce que, par les constructeurs, parce qu'en Allemagne, la situation est très compliquée. On est à moins 45% en Allemagne pour les constructeurs, alors qu'on est encore en croissance chez les OEM. Et je crois que le quatrième trimestre sera encore pire chez les constructeurs en Allemagne. Mais au global, on est à 8% de croissance. Merci pour clarifier un autre point également. Pour 2025, vous avez dit que vous n'avez pas de signe de rebond. Est-ce que vous avez dit que vous allez en... on vous avait dit qu'on allait entrer 2025 avec soit une croissance avec une décroissance? Oui, étant donné qu'on a eu un déclin, une décroissance sur 2024, en particulier la décroissance et cette tendance sera encore plus forte sur la deuxième partie de l'année que la première. Parce qu'à partir de septembre, la dynamique de l'auto et de l'aéro est bien moins positive que ce qu'on a eu. On va commencer 2025 avec une croissance embarquée négative. Alors, je ne sais pas combien, parce qu'on ne sait pas quel sera l'atterrissage pour 2024, mais clairement, la croissance embarquée sera négative. Donc, pour atteindre une croissance de zéro en 2025, ça signifie qu'au final, il va falloir repartir à la croissance pour compenser la croissance négative de 2024. Et vous avez raison, je l'ai dit, on n'a pas de visibilité du tout, puisque nos clients eux-mêmes n'ont pas de visibilité sur leur projet de portefeuille pour 2025 et les budgets globaux non plus. Très bien, j'ai compris, merci. Et alors, pour 2024, vous êtes à moins 3 à moins 4,5%. Vous avez dit qu'il y avait des annulations ou des reports de projets, souvent avec peu de préavis. Est-ce que vous avez une idée de ces... Si ces prévisions vont se réaliser? Ou est-ce que vous pensez que ces reports sans préavis vont également impacter ces chiffres? On a pris en compte ce que l'on sait déjà. Et même si aujourd'hui, les clients sont en train de me dire qu'ils n'ont pas l'intention d'annuler d'autres projets, ils ont également dit qu'en septembre et en octobre, et pourtant ils en ont encore annulé. Donc pour être tout à fait honnête, j'ai décidé de prendre un tampon, enfin une marge supplémentaire sur les annulations, même sur des projets qui nous ont été confirmés pour le quatrième trimestre. D'accord. D'accord. Donc vous avez quand même déjà pris des marges tampons pour le quatrième trimestre. Ah, et pour les effectifs? Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur la gestion des effectifs à la fin de l'année 2025 au vu de 2025? Est-ce qu'il y a des projets de recrutement avec tous ces projets qui ont été reportés? On va probablement continuer à avoir une croissance négative au Q4 en termes de recrutement net comme au Q3 parce qu'on doit suivre les exigences des projets en termes de personnes. On ne veut pas. Parce qu'on ne veut pas avoir un bench qui est trop cher, parce qu'on ne veut pas avoir un impact trop fort sur la marge nette. Donc, on est obligé, la marge brute plutôt, donc on est obligé de laisser partir les gens. Notre turnover net est à 22%. Elle n'est pas descendue à 15%, donc on suit de près les recrutements pour ajuster au mieux Merci.
Nous n'avons plus d'autres questions en attente. Ah si. Nous avons maintenant une question de Monsieur Nicolas David. Monsieur Nicolas David, c'est à vous.
Oui, bonsoir, bonsoir Bruno.
Bonsoir.
Je vais juste revenir sur l'auto et l'aéro pour bien comprendre la dynamique, parce que effectivement, on voit automobile, donc pour clarifier le chiffre, donc c'est year on year T3 flat, c'est ça? Et sur 9 mois encore, c'est en croissance de 8%. Mais on va logiquement rentrer en décroissance assez prononcée au T4. 4 sur l'auto, j'imagine, et que ça va, et ça peut risque de s'accentuer en year on year au S1 aussi. Ça avait continué à très bien performer au T4 et au S1, au T4 2023 et au S1 2024. Voire il y avait même eu un rebond, je crois, en France. Donc ça va amplifier les dynamiques de year on year. On rentre dans la courbe en V, la pente de la courbe en V qui effectivement, avant septembre prochain, pourra pas forcément s'inverser.
Oui, exactement.
Et c'est quoi, sur un scénario, on va dire réaliste, les niveaux de décroissance year on year que le secteur auto peut générer sur un S1 2024 en étant prudent?
Franchement, on n'a pas fait l'exercice parce qu'en fait, on n'arrive pas à savoir quand la glissade va s'arrêter chez les équipementiers et notamment allemands. Il y a des équipementiers chez lesquels on est au-dessus de moins 60. C'est quand on discute avec certains clients, c'est vraiment la panique en Allemagne. Alors, les OEM pour l'instant résistent plutôt pas mal, mais quand même globalement, l'ensemble du secteur a beaucoup, beaucoup ralenti sur Q3. Alors, en fait, quand je dis ça a beaucoup ralenti, c'est le rythme de croissance qui a ralenti aussi. C'est-à-dire que même si l'activité a tendance à se stabiliser, notamment chez certains OEM, elle se stabilise après des années de croissance.
Oui.
Voilà. Mais en fait, le vrai sujet, Après, il y a des clients qui ont fait des annonces que vous connaissez, Stellantis, Renault, certains industriels allemands, OEM allemands aussi, Volvo Cars, enfin Geely de la même façon. Bon. Mais bon, si avec eux, on serait en croissance, même probablement encore à deux chiffres, ou pas loin d'une croissance à deux chiffres l'an prochain. Peut-être pas chez tous, notamment chez Stellantis, mais voilà. En revanche, le vrai sujet, c'est les équipementiers.
D'accord, parce qu'effectivement, intuitivement, j'aurais tendance à me dire, les équipementiers qui sont déjà en baisse de 50-60% year-on-year, on est plus proche d'avoir de la visibilité sur le fait d'avoir touché le fond que.
L'argent finale.
Non, ouais. Parce que
D'abord,
Ouais.
on n'en sait rien parce que on l'a pensé trimestre après trimestre et aussi. Mais si vous lisez un peu la presse allemande, enfin, vous voyez ce qui se passe en Allemagne, ils annoncent des coupes massives d'effectifs. Il y a des équipementiers qui ont annoncé qu'ils allaient séparer de 30 à 40% de leurs effectifs en Allemagne. Enfin, c'est monstrueux quand même.
Mais sur les OEM, qu'est-ce qui pourrait, tu parlais de OEM qui pourrait être en croissance l'année prochaine, mais qu'est-ce qui pousserait les OEM comme Volvo, Geely, Volkswagen, BMW à faire de la croissance en 2025? Parce que le danger, il n'y a pas aussi sur le fait que ça puisse vraiment se détériorer aussi à ce niveau-là.
Ah non, ça peut très bien s'effriter aussi chez les OEM, c'est ce que je dis. Mais je dis, s'il n'y avait que les OEM, comme on a embarqué de la croissance et que pour l'instant, il n'y en a pas un seul chez lequel il y a de la décroissance, c'est pas parce que le taux de croissance ralentit que on fera pas de croissance l'an prochain. Voyez
Ok.
et bon, après, les OEM, il y a des sujets de pilotage du cash, ça c'est clair. Parce qu'ils ont un vrai sujet de revenus. Bon, il suffit de lire la presse sur les ventes de véhicules électriques pour comprendre que enfin, les revenus sont pas au niveau attendu. Donc, forcément, les ajustements se font sur le ralentissement des investissements. En général, il y a un décalage de 3 mois, voire un peu plus. C'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Mais il y a quand même des projets qui doivent être mené à bien dans le cadre des programmes de transition. Et après, il y a des OEM qui aujourd'hui se posent des questions sur les stratégies d'investissement. En clair, les questions, elles portent sur sur quelle génération de batterie investir, sur quelle typologie de plateforme investir. Comme vous savez, les Chinois, ils ont quand même au moins 5, si c'est pas 10 ans d'avance sur les Européens. Vous avez des OEM qui ont fait le choix d'acquérir sous licence la technologie chinoise pour pas avoir à gérer des réinvestissements. Voilà, donc il y a des sujets de stratégie d'investissement, et là on n'est pas. Enfin, c'est ce qui peuvent amener aussi nos clients à différer des investissements tant qu'ils n'y voient pas clair eux-mêmes sur où et comment investir.
C'est clair. Et sur enfin, l'aéro, c'est vraiment uniquement Airbus ou on a vu déjà aussi quelques inflexions chez les équipementiers
Non,
Tier 1
c'est.
qui sont vraiment Airbus?
C'est majoritairement Airbus, évidemment, vu que c'est quand même le gros compte aéro, mais c'est une tendance qu'on voit aussi chez des équipementiers.
Et chez Airbus, le gros ajustement a été fait, on va dire, en septembre et là, depuis début octobre, ce qui pousse vraiment à une grosse prudence sur le T4 et l'espèce de marge d'escalier, où il y a aussi en séquentiel encore une glissade chez Airbus prévue au S1 en séquentiel.
Je suis pas sûr que nos interlocuteurs aient l'information.
Ok.
Quand on lit les communications qu'Airbus fait sur enfin, leurs objectifs de rationalisation des processus de production, enfin, ils ont communiqué sur leur plan dans la presse. Hein. En fait, il n'est pas impossible qu'il y ait des coûts de projet supplémentaires, notamment dans le manuf engineering en début 2025.
Parce qu'ils donnaient l'impression d'avoir donné pas mal de visibilité avec leur plan d'économie qu'ils ont annoncé en.
En fait,
C'est pas.
ils ont donné une visibilité en interne et au marché sur leurs objectifs, mais derrière la déclinaison opérationnel du plan, notamment dans la durée, moi, je ne suis pas capable de répondre, et nos interlocuteurs non plus, sur quelle incidence ça aura sur le niveau d'activité 2025. Mais ça va concerner le Manuf Engineering.
Ok. Et dans ce contexte, au niveau des prix, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que, lors des vagues de renégociation, ça puisse être. Bah, ça va être évidemment plus compliqué que les autres, les deux dernières années, mais c'est.
Ben oui, ça va être forcément plus compliqué pour deux raisons. D'abord parce que déjà l'inflation a rebaissé et donc les salaires devraient moins pousser. Parce que nos clients ont quand même beaucoup de projets à mener à bien dans les 5 ans à venir et ils ont un niveau de revenu qui n'est pas au rendez-vous. Donc ils vont forcément nous demander, ça on s'y attend, de les aider à faire des gains de productivité. Ça, c'est déjà le cas d'ailleurs dans l'automobile. Et donc la réponse à ça va être, je pense, une accélération du recours à l'offshore. D'ailleurs, on
Oui.
l'a bien vu en France. Si on regarde juste la France, alors la France est beaucoup plus en avance hein, que le reste de l'Europe, mais la croissance dans l'auto en France, elle s'est quand même faite à 80% depuis la fin du Covid sur de l'offshore ou du nearshore. C'est très net. On
Mais au niveau
avait, on avait, on a pris à peu près 1000 ingénieurs en l'espace de trois ans et demi au Maroc sur l'auto. Et on a dû en prendre 300-400 sur l'Inde.
mais in fine, en termes de marge d'EBIT ou de marge brute, vous y êtes retrouvé quand même. En taux de marge, en tout cas.
En taux de marge, oui, on s'y retrouve, même si ça génère quand même des surcoûts de coordination et de pilotage de projet, parce qu'il faut une taille critique suffisante pour piloter des projets transmat et transverses. Mais il faut qu'on accélère aussi une adaptation de l'organisation. Alors, bon, c'est vrai que cette année, on n'imaginait pas terminer l'année avec un chiffre d'affaires à ce niveau-là, mais il nous manque plusieurs dizaines, pour pas dire centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires par rapport à l'hypothèse de travail, d'où une révolution des SG&A, quand bien même on a quand même pas mal coupé. Mais on a des structures front qui sont quand même majoritairement aujourd'hui sur des pays high cost. Et donc, on est en train de travailler justement à une réorganisation des structures d'encadrement, notamment le delivery, etc. Parce que le chiffre d'affaires par tête en Inde ou au Maroc, c'est pas le même que celui qu'on fait en Allemagne ou en France. Donc, il y a aussi une adaptation de la structure de coûts. Finalement, bon, la marge de cette année, elle va pas être extraordinaire, mais quand on prend en compte déjà le coût de l'intercontrat additionnel, ça explique une grosse partie de l'écart de marge. C'est-à-dire qu'on a quand même réussi, malgré tout, à absorber énormément sur nos structures de fonctionnement interne, la baisse du volume de marge brute en euros qui aura été générée par le manque de chiffre d'affaires et de top line cette année.
Oui, effectivement. D'accord, non, mais c'est clair. Enfin, c'est clair. À la mesure où la visibilité le permet. En tout cas,
C'est ça,
merci.
c'est exactement ça. C'est bien résumé.
Merci pour les détails.
Bah,
Nous n'avons pas.
je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, nous allons clôturer la conférence. Puis juste à temps pour celle des systèmes qui va démarrer. Écoutez, je vous remercie d'avoir participé à notre conférence pour le troisième trimestre. On se reparle donc début janvier, puisque là, ce sera la conférence sur l'activité 2024. Et je ne sais pas si on aura beaucoup plus de visibilité pour 2025 en janvier, puisqu'en général, c'est vers février-mars qu'on commence à y voir un peu plus clair, mais au moins, On saura quel est le point d'atterrissage de l'année et sur quelle base on démarre 25. Merci beaucoup, très bonne soirée et à bientôt. Au revoir.